comme l'a écrit Caillebois, il y a une somptuosité de la parole dans la nature.
Ou de parler à son chien.
Comment ?
Ou de parler à son chien.
Ou de parler à son chien. Oui. Mais là, déjà, le chien, il est déjà névrotisé. Vous voyez, il est pavlovisé. Il commence déjà à avoir des symptômes névrotiques. Il est oedipalisé. On lui apprend à pisser sur le tapis où on ne veut pas qu'il pisse. N'oubliez jamais ça. Les gens qui ont des animaux, ils font ça très très bien. On fait ça avec les enfants aussi. Mais les enfants, ils peuvent sentir qu'ils ont des substitutions en cascade. Parce que les chiens, ils vont pisser là où, justement, le maître ne veut pas qu'il pisse. Il y a des gens qui élèvent leurs enfants comme des chiens. Hein. Donc voilà. La question, ça n'a rien à voir avec la nature. C'est la question de détruire cette partie qui fait que la lecture devient plus difficile. Comment reconstituer le borroméen dans le neutrel? Et ce qui est extraordinaire, c'est que ça marche. Moi, je vous montrerai, je pense que je pourrais faire ça l'année prochaine, quand on va avoir fini ça en septembre, quand on prendra l'année prochaine, je vous propose de commencer à apprendre à lire les nœuds, dans les nœuds propres, et d'un seul coup, d'apprendre à reconstituer la partie abolie par les coups. Et là, quand il en est là, quand il est en train d'affronter cette histoire de découper les surfaces avec les nœuds. Donc, la différence entre le neutraire et le borroméen, il se prend les pieds dedans parce qu'il y est encore plus intéressé. C'est ce qu'il vient de dire dans le séminaire de Saint-Aubin. Personne ne lit le séminaire de Saint-Aubin. Là, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui me demandait une expertise parce qu'il voulait faire une conférence sur l'autisme. Il voulait expliquer une théorie de l'autisme à partir de Joyce et de la fille de Joyce. Oula. Et qui m'a dit que c'était le nœud borroméen généralisé qui est mis en continuité dans la chaîne A4. C'était parce que Lacan parle de prolongement. Entre la fille de Joyce et Joyce, et donc l'autisme, c'est un prolongement et une mise en continuité entre la chaîne A4, entre Joyce et sa fille. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, écoutez, c'est pas parce que vous n'avez pas lu le séminaire de Saint-Aubin que vous êtes obligé d'inventer n'importe quoi. Vous voulez l'utiliser pour faire quelque chose, mais sans l'avoir lu d'abord. Il faut d'abord commencer par le lire. Lisez-le, faites un commentaire. Comment ?
Il n'est pas autiste.
Non, mais en plus, c'est pas autiste et tout. Et en plus, alors l'expertise qu'il me demande, c'est quoi? Je vais lui dire quoi? Vous vous rêvez complètement. Lacan associe à Freud la chaîne A4 qui donne le borroméen généralisé. Alors que Joyce, c'est une chaîne A4 qui n'est pas la borroméenne, qui est une chaîne où il y a un enlacement parce qu'il a raté le nœud et il y a une réparation qui est parfaitement névrotique, nous dit Lacan. Parce qu'il y a de l'enlacement et du tort. Bon. Donc il y a des repérages structuraux. Mais moi, je ne réponds pas à ça. Je ne vais pas lui raconter ça. Pourquoi? Parce que je ne suis pas un expert. Il n'a qu'à se démerder. Il n'a qu'à faire comme moi. Il n'a qu'à prendre ses papiers, ses crayons, ses livres. Et puis, il n'a qu'à bosser. Et s'il lit Lacan, il finira par trouver des choses très intéressantes. Mais vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Il voudrait que l'expert donne son avis pour la patente. Et que on fabrique absolument n'importe quoi pour paraître sans être allé lire le texte. C'est quand même très embêtant. Et c'est comme ça avec l'ensemble de l'œuvre de Freud et de Lacan. Ça se compte, c'est pas seulement pour les dernières années qui seraient particulièrement difficiles, parce que c'est vraiment une question de méthode de travail. C'est vraiment une question d'analysant, de tâche analysant. Qu'est-ce que c'est apprendre à lire, voilà. Comment utiliser un autre, et même peut-être plusieurs autres, mais pour apprendre à lire, pour apprendre ensuite se rendre compte comment écrire, combien c'est difficile, quelles sont les difficultés que nous avons avec l'écriture et avec la parole. Il est difficile de parler, il est difficile d'écrire, et la paranoïa, c'est pas le délire réservé à quelques délires un peu bruyants qu'on retrouve dans les camisoles de force dans les hôpitaux, mais la paranoïa, c'est cette absence de lecture, c'est ce qui va jusqu'à la destruction de lecture. Ça fait 5 ans en France qu'on a promu cette paranoïa. Moi, je suis fier de ne pas savoir lire et de ne pas lire, et je ne vais pas m'excuser de ne pas savoir lire. Vous voyez ce genre de truc-là. La droite décomplexée, ils appellent ça. Okay. C'est un fait que même le stalinisme, et son aspect totalitaire, comme ils disent, moi je trouve que c'est pas bon, mais le stalinisme, il y a eu des camps, ça je ne dis pas une seule seconde, qu'il y a eu des goulags. Et une police politique, Mais le problème, il est que pourquoi Giraud demandait tout le temps à ses interlocuteurs qu'on soit sûr jusqu'aux autres, pourquoi même Sartre s'est trompé sur l'URSS? Parce que la révolution d'octobre, c'est différent des nazis. Parce que dans la révolution d'octobre, l'émancipation des masses par l'étude et la lecture, hein, ça existait. Même si ça n'a pas dominé le truc, hein. Mais ça existait et c'était quand même quelque chose qui n'avait rien à voir avec le fait de sortir son revolver quand on entendait vos cultures. C'est des différences qui ne comptent pas. Vous voyez, c'est ça.
Est-ce que être dans la foule, c'est pas vouloir masquer cette différence?
Oui, il y a quelque chose comme ça. Dans la foule, il y a déjà cet effet de déperdition. Oui. C'est sûr que la foule, comme le note Freud, le sujet de la foule est moins intelligent, le degré d'intelligence baisse, ça veut dire quoi? C'est la lucidité, c'est la distinction, la différence qui baisse. C'est évident. Alors, quand je parle des incorporels, justement, parce que dans la foule, il y a un phénomène d'hypnose, vous voyez, il y a quelque chose d'incorporel qui fonctionne. Et bien, justement, c'est... Le snobisme n'est pas forcément, on n'est pas obligé d'être fou, d'être snob. On peut être snob en affirmant des goûts, des options, des choix, des décisions. Hein. C'est comme l'histoire du choix psychotique. Moi, je déteste cette expression. Il y a un déterminisme psychotique, mais on n'est pas obligé de se soumettre si on décide d'apprendre à lire. N'oubliez pas cette notion qu'un délire, hein, c'est un transfert sans lecture. Vous ajoutez la lecture, c'est la psychanalyse. Et ajouter la lecture, c'est apprendre à lire ça, hein, en reconstituant ceci pour rendre ça lisible. Bon. C'est une proposition que je fais, et c'est directement dans le fil de ce que fait Lacan à cette époque-là. Et ça explique pourquoi, pour Lacan, c'est pathétique de voir les séminaires où il cherche à faire non seulement ça, mais ça aussi. Hein. Vous avez le Borroméen, il est dessiné à la... Les dessins que j'ai montré tout à l'heure. Les bandes de Möbius triples avec le nœud trèfle et le simple Möbius. Il y en a toutes ces années-là. Vous voyez le nœud trèfle et la Möbius, la coupure médiane de la bande de Möbius. Lacan, il s'interroge là-dessus, hein, et il rate. Ici, il y a le nœud borroméen qui vient après. Je vais voir où je le retrouve. Vous voyez, il est là, ici. Hein, les nœuds borroméens de souris, ça, on va voir ça avec le borroméen généralisé. C'est un autre problème. Bon. Donc, Lacan, il est au cœur de ce qu'il a déjà proposé et qu'il est tout seul à faire, et il ne veut pas nous le dire. Ni à souris,
pourquoi?
Ni à... Parce qu'il veut le trouver, parce qu'il est analysant, et que l'analysant, il ne demande pas de l'aide, il veut faire son analyse, il veut
tout
apprendre
seul.
Tout seul. Mais... Il posait des questions. Quand il a besoin d'un renseignement, il pose des questions. Mais il ne veut pas nous dire, voilà ce que je suis en train de faire, faites-le à ma place. Vous comprenez? Et nous, on n'y comprenait rien. Moi, j'ai mis 10 ans, parce que cette façon de faire et la manière dont je vais vous montrer qu'on peut faire la même chose, d'aller retrouver cette surface en coupant celle-ci, comme je vous ai déjà montré qu'on peut fabriquer cette surface en coupant celle-là, hein. Ça, c'est les feuilles que j'ai montrées en février.
Vous ne trouvez pas que c'est une méthode autistique de travail?
Ah non, pas du tout. C'est une méthode...
Parce qu'il transférait sur qui? Sur personne?
Ah si, moi je pense qu'il transférait... La question est là. Il dit, lui, qu'il transférait sur le regard de son public, qu'il y avait de l'analyste dans la salle. Lui, il a toujours considéré qu'il y avait de l'analyste.
C'est vrai.
Bon. Et il dit que pourquoi il ne le ferait pas à la télé quand il fait télévision, hein? Bon. Donc, le problème, ce n'est pas du tout autistique. C'est que Lacan... Moi, je suis de cet avis. Ça, Lacan, il a bien pris la leçon de l'homme au loup. Quand Freud essaye d'aller plus vite que l'homme au loup, il ne respecte pas la contingence, l'homme au loup, il s'en remet jamais. Dans dix jours, ça va être fini, le mec, il est out pour tout le reste de sa vie. C'est une erreur de Freud, mais Freud nous révèle qu'il savait que la contingence était importante, puisqu'il l'a ratée complètement. Bon. Et grâce, nous, à Lacan et à la lecture de Freud, qui n'est pas une dénonciation, ni une apologie de Freud, on peut quand même se rendre compte que grâce à Freud, on dispose d'un certain nombre de données, hein, mais que le problème, c'est qu'il faut continuer le travail. Bon. Et donc, je vous ai déjà envoyé ça, hein, et je voudrais vous envoyer les autres. Là, vous avez la feuille, elle est arrivée jusqu'ici.
Les autres qui ne sont jamais...
Comment?
On n'a pas eu.
Non.
Oui, mais celle-là, si vous ne l'avez pas eue, celle que je vais... ceux dont j'ai l'adresse, qui ont déjà reçu ça, j'ai leur adresse, donc ils vont recevoir ça. Très bien. Mais mettez-moi, mettez les noms de tous ceux qui n'ont pas encore reçu les premiers, la première page. Bon. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe, regardez bien, quand vous avez mis une trèfle sur le tore, qu'est-ce que vous constatez? Prenez un crayon, d'abord je ne parle pas de la surface du tore qui est à l'intérieur, je parle de la surface du tore qui est la bouée. Hein. Bon. Si je colorie cette bouée ici, regardez, en quoi ce trèfle va diviser mon tore en combien de points? Vous voyez, voilà. C'est un morceau de tore qui est vert, d'accord? Vous voyez ça? Ici, ça passe en dessous, et la couleur, voyez-vous, elle passe en dessous et elle réapparaît ici. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que vous voyez, est-ce que tout le monde voit au tableau que dans ce dessin, vous avez ici quelque chose qui va passer en dessous, voyez-vous, quelque chose qui va passer en dessous de quelque chose d'autre, hein, qui est comme ça, avec ici une ligne de pli et là une ligne de pli qui est comme ça. Bon. Ce que je suis en train de vous montrer, regardez, c'est qu'il y a deux torsions. C'est une bande. Vous voulez que je le fasse plus grand? Vous le voyez ici? Tout le monde le voit ici? Vous avez un ruban qui se plie une deuxième fois dans le même sens, en faisant deux tours, en faisant deux plis. Vous avez le vert qui est là et qui réapparaît ici, vous voyez. Il passe par en dessous là et il réapparaît là. Est-ce que ça vous agresse ce dessin ou pas? Il y a une objection? Ce que je suis en train de dire, hein, c'est que c'est, ici c'est de la couleur verte. Ça tourne et ici vous voyez réapparaître la couleur verte. Si je continue à colorer en vert mon tore, je passe de nouveau en dessous ici et je réapparais ici. Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vous constatez? Je repasse en dessous et je reviens au point de départ. Qu'est-ce que vous constatez? J'ai coloré de la même couleur tout le tore. Donc, ça veut dire quoi? Que mon trèfle, il découpe le tore en un seul morceau. Ben oui, puisque hein, avec une seule couleur, je parcours toute la surface. Vous voyez? Ici, cette couleur verte, elle indique que le trèfle qui a été mis ici sur le tore, hein, il ne découpe pas le tore en deux parties, mais en une seule partie qui est une bande. Quand je vais couper le long du trèfle, je vais obtenir une bande à 6 demi-torsions. Hein. Vous en avez 2 et 2 et 2, ça fait 2 plus 2, 4 plus 2, 6. Vous avez 6 demi-torsions, et c'est grâce à ces 6 demi-torsions qu'on va pouvoir reproduire la bande de Möbius. Bon. Qu'est-ce qui se passe maintenant là? Est-ce que le fait que cette surface est unilatère, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul morceau? Ben oui, il n'y a qu'un seul morceau. Là aussi, il n'y a qu'un seul morceau, comme ici. Mais le problème, c'est qu'ici, on va avoir deux bords et on va en faire disparaître un grâce à la pliage de la bande de Möbius. On va avoir un bord qui s'annule. Tandis que ici, si je découpe ce tore par ces trois ronds, j'ai qu'un seul morceau. Mais pour vous faire comprendre le problème auquel on va être confronté, je vais effacer ce trèfle ici et je vais vous dessiner la même chose que ça d'une manière intrinsèque. Voilà. Là, c'est un très bon exercice de lecture. Comment penser un problème compliqué qui est compliqué à cause d'une trèfle, le nœud boromien, il est tordu, vous voyez, là-dedans, il est parti en tordu. Hein. Est-ce qu'on ne pourrait pas raisonner sur cette surface en ayant un triple tore? Regardez, un triple tore intrinsèque. Qu'est-ce que j'appelle un triple tore intrinsèque? Comment je peux disposer trois ronds de couleurs, vert, rouge et bleu, sur le triple tore de la manière la plus simple pour obtenir intrinsèquement la même chose que ceci quand je coupe? C'est-à-dire quelque chose qui n'est pas noué ni torsadé. Eh bien, c'est très simple, regardez. Si je mets ici un rond rouge, si je mets ici un rond bleu, dans un rond vert, hein, et là un rond bleu, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la même chose que ça, mais intrinsèque. Là, vous n'avez plus le nœud. Hein, parce que pour la surface, les nœuds n'existent pas. Ils existent dans l'espace. ça, je vous renvoie au premier chapitre du bouquin de Delphine qui s'appelle Nœud. Hein, c'est consacré entièrement à cette question, intrinsèque et extrinsèque. Hein. La différence entre intrinsèque et extrinsèque, c'est la difficulté du narcissisme. Qu'est-ce que c'est que narcissisme? C'est quelqu'un qui va se poser la question, est-ce qu'il peut se reconnaître, oui ou non, dans cette image de lui qui est telle qu'il se voit de l'extérieur. Pour illustrer le narcissisme et la difficulté de la lecture, ce que j'emploie toujours, c'est la lecture d'une carte de géographie ou d'un plan de la ville. Quand vous êtes dans Paris et que vous voulez vous orienter avec un plan de la ville, vous avez le plan, vous pouvez voir la ville en vue d'avion, et vous devez vous situer dans le plan, et en même temps, vous êtes dans le territoire. Donc vous êtes dans une situation narcissique, puisque vous êtes à la fois en train de vous voir de l'extérieur, comme avec un miroir, puisque vous voyez le terrain et l'endroit où vous jouez. Vous savez, sur les plans dans le métro, on vous met un endroit, vous êtes ici. Je suis là. Et vous êtes ici, et vous êtes là. Vous voyez ? Et le narcissique, c'est le type qui doit essayer de faire quoi ? De faire que les deux, ils arrivent à... La lecture, ça consiste à faire avec du 2, du 1, et avec du 1, du 2. Bon, ça, c'est ça. Quand j'ouvre un livre, si j'y mets pas du mien, si je me raconte pas des histoires, je peux pas lire. Si ça ne dit rien, il faut qu'on m'en ait parlé pour que ce soit intéressant. Mais si ça me dit trop et que ça reste ouvert et que j'arrive pas à refermer le commentaire que je peux faire, eh bien, vous voyez, il faut faire ça à 24 images par seconde. C'est comme au cinéma. Donc, il faut ouvrir des fenêtres, fermer les fenêtres tout de suite. Bon. Si vous laissez les fenêtres ouvertes, le livre tombe. Vous ne pouvez pas lire. Si vous ouvrez pas de fenêtres, si ça ne vous dit rien, vous ne pouvez pas lire non plus. Et d'ailleurs, il faut rentrer dans le truc. Hein, parce que, regardez, les bandes dessinées là avec les bulles, vous voyez bien que c'est impossible de lire une bande dessinée en feuilletant à toute allure. Quand vous rentrez dans la lecture des bulles, vous voyez bien que vous rentrez aussi dans le dessin. Hein, vous rentrez dans le territoire. Alors ensuite, il faut aussi se détacher, pour ne pas rester ventousé. Bon, donc c'est ça la question, ça s'appelle narcissisme. Lire, c'est faire un mouvement entre intrinsèque, extrinsèque, ou entre extrinsèque, intrinsèque. C'est deux et un. C'est ce que dit Freud au Beauvieux. Il dit, pour travailler, nous, on a besoin qu'il est nécessaire qu'il y ait deux libidos, une libido du moi et une libido d'objet. C'est peut-être la même, dit-il. Mais comment elle une libido et deux libidos, demandez aux biologistes. Hein, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous empêche pas de travailler à partir du moment où il y a deux libidos. C'est-à-dire que pour nous, il faut que ce soit deux. Vous voyez ? C'est pour ça que la définition que donne Lacan du signifiant, il dit bien S1 flèche S2. Vous voyez, c'est un signifiant représente un sujet par un autre signifiant. C'est ce que je suis en train de vous dire. Lire. C'est ça, c'est un signifiant qui représente une lecture pour un autre signifiant. Voilà. Il faut être extrinsèque et intrinsèque. Il faut passer de l'extrinsèque à l'intrinsèque et un mouvement dans les deux sens qui vous permet de faire exister du sujet. Le sujet, il est dans la fente, dans la faille. C'est pas seulement qu'il est barré, on pourrait même dire qu'il est barre, il est dans la pulsation de la structure phonématique, du phonème, de la différence, de l'opposition. La langue, c'est l'opposition. C'est pour ça que Freud était intéressé par la Gegenseele, par le sens opposé des mots primitifs. Est-ce que Benveniste a cru que Freud faisait une erreur en croyant qu'il n'y avait pas de différence, justement, qu'on pouvait lire sans différence? Alors, il est révolté, et puis du coup, il rejette Freud, l'inconscient, tout ça, Benveniste. Milner a montré que c'était Benveniste qui en voulait à Abel et à Freud parce que c'était des askénazes et qu'il appelle ça la coupure invisible, Milner, et que donc le séfarade Benveniste rejetait la lecture des séfarades Abel et Freud. Moi je pense qu'il y a effectivement, Milner a raison, il a modifié son texte, hein, il a réécrit son texte pour le périple structural, et ça c'est dommage parce que la première version pour le colloque qui traitait des linguistiques fantastiques était bien meilleure que la version qu'il a redonnée après au moment de publier le périple structural. Mais vous trouverez quand même une indication de ce texte dans le périple structural de Milner qui paraît au Seuil. il essaye, dans la dernière version, c'est moins fort, mais il rétablit Freud comme disant la même chose que Benveniste. Ce n'est pas la ressemblance qui fait l'identité, c'est la différence qui permet de faire l'identité. Et que s'il n'y a pas de différence, on ne peut pas lire. On peut lire, c'est introduire, ne serait-ce que dans la parole, vous voyez, le flux verbal, il est continu. Et entendre, c'est commencer à savoir où couper, où faire apparaître des segments. Quand vous entendez une langue que vous êtes, qui est loin de votre aire linguistique, eh bien, si vous entendez une langue sans savoir où couper, où faire, où établir des lettres et des mots, des noms, des lettres, eh bien, vous avez l'impression d'un flux verbal, vous avez l'impression que ce n'est pas une langue. Le psychotique, il est à peu près comme ça. On lui parle, même c'est à peu près comme les auditeurs de la psychanalyse et du séminaire de Lacan. On lui parle et lui. Vous voyez, moi j'ai peur. Ça a été une grande victoire pour moi. Au bout de, je ne sais pas, peut-être 5 ans, j'ai réussi à prévoir un mot que Lacan a prononcé après. Donc, à précéder Lacan de un mot. Et le reste du temps, je ne comprenais rien. Bon, je prenais des notes, hein. J'étais consciencieux, hein, j'ai gardé tous mes carnets, toutes mes notes. Mais je ne prenais pas les notes mot à mot, mais je ne comprenais rien. J'ai mis ensuite 5 ans à pouvoir commencer à lire et à relire tout ça, puis ensuite et également relire les séminaires précédents. Donc c'est dans les années 80-90 que j'ai commencé à lire sérieusement Lacan, et avec Lacan encore relire et lire de nouveau, toujours, Freud d'une manière différente. Donc voilà, intrinsèque, extrinsèque, faire des différences, et ça c'est intrinsèque, et ça c'est extrinsèque. Alors qu'est-ce que vous constatez sur la coupure, sur le découpage? C'est plus facile à voir sur le découpage intrinsèque. Si je coupe les trois là, vous voyez bien que c'est un seul morceau. Ça va donner quoi? Vous permettez que je l'efface un peu pour plus que le... Je fais la coupure, regardez. Quand je coupe, qu'est-ce qui se passe? Quand je coupe ici le bleu, je fais un autre bord bleu. Vous voyez, donc j'ai un bord bleu ici. Et là, j'ai un bord bleu qui se détache là. D'accord? Je fais pareil à la hauteur rouge. Vous m'arrêtez ainsi, hein, ça va trop vite. Hein, vous êtes bien d'accord que ça, on peut faire ce que je viens de faire. Si je coupe, le bord de la coupure, il va se séparer en deux. Le trajet de la coupure, le bord qui était dans la surface, il se sépare en deux. Il y a deux bords, il y a deux composants de bord qui s'opposent. Et là, pareil. Voilà. Qu'est-ce que vous constatez? Emmerdement. Ah, écoutez, emmerdement, parce que là, vous aviez deux bords, on va en annuler un pour faire la bande de Möbius, hein, avec un bord qui sera une trèfle, et obtenir ça. C'est ce que je vous ai montré ici, vous voyez, comment refermer ce tor coupé par un trèfle, comment le refermer pour obtenir une bande de Möbius. On annule un bord. Bon. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a aussi, on peut faire la même chose, mais il faut annuler trois bords.
C'est une sphère, non?
Et c'est une sphère trouvée avec 6 trous. Alors, comment faire? Alors que là, on a affaire à un plan projectif, à une bande de Möbius, voyez-vous, avec 3 trous. Hein, ça, c'est une bande de Möbius à 3 trous. Cet objet-là, son schéma, dans les petits schémas que je fais dans Étoffe, c'est comme ça. Hein. C'est la structure intrinsèque de cet objet, vous voyez, il y a 2 trous supplémentaires, vous avez 3 trous. Vous pouvez les colorer, hein. Le trou qui est périphérique, il a la même structure et la même fonction que les autres bords. Hein. Vous avez un bleu, un rouge, un vert. C'est une bande de Möbius avec. Une bande de Möbius, c'est un plan projectif avec un trou. Il y a 2 trous de plus. Ça fait un plan projectif avec 3 trous. Bon. Un plan projectif avec 3 trous, là, on obtient un plan projectif avec un seul trou. Passer aux 3 trous, ça veut dire qu'il faut fermer les 3 trous de telle manière qu'il faut créer la surface non orientable de Möbius. Hein? La surface de Möbius, vous voyez, elle se fabrique grâce à la fermeture d'une coupure qui est là. Hein? Qui est là, ou qui passe à un autre endroit, mais qui passera toujours par là. Bon. qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, moi, j'ai trouvé la solution pour obtenir cette surface. Il faut rajouter la coupure du nœud borromien qui le caractérise dans ma méthode de lecture, qui condense toute cette surface bleue. Vous voyez, toute la non-orientation bleue, hein, elle peut être condensée par une coupure qui est une condensation de la non-orientation et qui va réorienter la surface. Qu'est-ce que ça veut dire que ça réoriente la surface? Voilà. Vous voyez, tout ce bleu disparaît parce qu'il est condensé dans une ligne bleue. Hein, c'est bleu horizon. Livre horizon. Voilà. Vous avez ici du bleu, une coupure bleue, qui fait que cette coupure bleue, maintenant, elle coupe votre surface de telle manière que cette surface, elle devient bilatère. Vous voyez, elle est ici, je mets des hachures vertes. Ici, je mets des hachures vertes. Ici, je mets des hachures vertes. Voilà. Et là, d'une manière périphérique, je mets des hachures rouges. Enfin, je ne vais pas prendre ce rouge-là parce que je ne pense pas bien. Voilà, le rouge ici. Vous voyez? Alors là, j'ai deux morceaux. Voilà. J'ai deux morceaux. Donc, les choses ne se passent pas pareil pour un et pour plusieurs. Notez bien ça parce que c'est la structure du fantasme. Il y a une différence. Un enfant est battu, une multitude d'enfants sont battus, l'enfant lui-même est battu. Un commentaire de Lacan, mais commentaire de Freud d'abord. L'article de Freud joue bien sur cette proposition qu'il y a entre un enfant est battu, une multitude d'enfants sont battus, et l'enfant lui-même est battu. Vous voyez, le pluriel, la multitude, les choses ne se passent pas pareil dans le 1 et dans le multiple. Donc tout ça, ceux qui s'intéressent à la philosophie peuvent venir Parménide avec ça, les commentaires de la de Parménide. Vous avez là, avec cette histoire de corps coupé par des nœuds, une différence entre le 1 et le multiple. Parménide, je parle du Parménide de Platon. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ici, je peux obtenir, si j'ajoute cette coupure bleue qui commence la couleur bleue, j'obtiens deux phases. Donc si je coupe selon ces quatre trajets, trois qui sont apparemment périphériques ici, mais qui en fin de compte sont dans la surface, il faut que j'ajoute la coupure. Je vais l'ajouter en vert. Alors je vais vous montrer d'abord dans l'intrinsèque comment elle est cette coupure, pour vous juger. Regardez, la coupure, elle est comme ça, regardez. Je vais la dessiner ici. Voilà. Je double ce bord bleu et je double ce bord rouge. Et je double, parce que j'ai un double asymétrie, le bord vert. Et ces trois coupures que j'ajoute, je vais les réunir comme ça. Et je vous dis la chose suivante. J'ai réalisé ce coloriage-là. Cette coupure noire, c'est la coupure bleue qui est là. Je peux d'ailleurs maintenant la mettre en noir. Et elle sépare mon triple tore en deux moitiés qui sont équivalentes et superposables. Mais elles ne sont pas superposables telles qu'elles sont présentées ici. Vous voyez, il y en a une, il y a une surface qui est là, il y a une surface qui vient jusqu'ici. Vous voyez, elle a des espèces de petits cônes comme ça. Je vais vous la dessiner à côté. Vous la voyez, cette surface, je vais la mettre en rouge. Hein, regardez, elle est comme ça. Voilà la surface. Vous la voyez en rouge, cette surface, c'est des bretelles entre trois. On appelle ça comment ça? C'est des cylindres. Vous avez trois cylindres qui sont raccrochés entre eux par des bretelles. C'est deux bretelles d'ailleurs. Vous avez une bretelle là et une autre qui vient de là. Bon. Et l'autre moitié, ben, c'est la même. C'est la même surface. C'est aussi une surface, vous voyez, qui a un bord, un deuxième bord, un troisième bord, et le bord noir, qui lui, quand je vais couper, n'est-ce pas, il va séparer en deux la surface, mais il va donner deux bords. Donc vous avez une surface et une autre surface. Les deux sont des sphères à quatre trous, dans ce cas-là, parce que c'est intrinsèque. Et dans l'extrinsèque, si je coupe la coupure, si je coupe selon la coupure noire que je vais ajouter dans ce dessin, grâce à celui-là, je vois à peu près où elle va passer, cette coupure, voyez-vous, elle va passer entre le trou 1 et le trou 0 ici, elle va passer quelque part par là. Elle va passer en dessous, vous voyez, la coupure ici, elle va venir passer ici en dessous, au-dessus, pour passer en dessous, et là, elle ressort au-dessus. Et là, elle passe en dessous, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe entre la coupure qui est un rond et la coupure qui est sur le triple tore? C'est que cette coupure, c'est un cercle dans ma surface, mais quand ma surface se dédouble, ça devient un trèfle. Ça, c'est une nouvelle difficulté. On va voir ça après. Alors. Je vais d'abord vous montrer que ici, j'obtiens bien deux surfaces à quatre trous. Et que un des trous va être un nœud trèfle. Ça, on va le voir après. Et c'est seulement en refermant le nœud trèfle noir, comme j'ai refermé ici un des deux bords, que j'arriverai à quoi, vous voyez. Alors je vais vous envoyer les dessins qui sont ici. Vous voyez, ça c'est le borroméen sur le triple tore. Ça c'est le borroméen avec le trèfle en plus que j'ai commencé à dessiner là, hein, mais que je n'ai pas fini de dessiner, c'est-à-dire le dédoublé de cette coupure. Hein. Si je le colorie, là maintenant j'ai deux couleurs. Là j'avais qu'une couleur. Là maintenant j'ai deux couleurs. Si je coupe, je vais vous envoyer ce dessin, c'est le plus intéressant, c'est le dessin du triple tore coupé par les trois ronds plus la coupure en trèfle. Hein. Celui-là, je vais vous en envoyer même une version agrandie. Si je ne l'ai pas là, non, je ne l'ai pas là, elle est là, mais je vais vous en envoyer une version agrandie. Ça, c'est le plus beau dessin, c'est le plus intéressant. Hein. C'est celui-ci. Bon. Eh bien, ça donne lieu à une partie verte et une partie rouge, qui correspondent à mes deux couleurs ici et qui correspondent à mes deux surfaces ici. Si j'ajoute le trèfle, j'ai deux moitiés qui sont l'une est verte avec intérieur rouge et l'autre est rouge avec intérieur vert. Et c'est ces moitiés que dans cette feuille, c'est une de ces moitiés dans cette feuille, vous voyez, une de ces moitiés que je referme exactement comme dans le cas du trèfle sur le, vous voyez, je fais tout ce mouvement de refermer le tore coupé. Là, c'est le triple tore coupé, il se referme et ça donne la surface d'encan du borroméen. Vous imaginez bien que le pauvre Lacan, il était tout seul à faire ça, à se faire suer avec ça. Il ne voulait pas nous demander de l'aider. Hein. Moi, je trouve ça pathétique. Mais n'empêche que je trouve ça admirable. Hein. Parce que, regardez, n'empêche qu'en laissant ces traces, moi, par un chemin complètement différent, vous savez comment j'ai trouvé cette solution que j'ai du mal à vous expliquer, mais donc je vous montre pas à pas les étapes, vous voyez. J'ai réussi, moi j'ai trouvé ça en faisant la chose suivante. On va s'arrêter. J'étais en train de me poser la question de pouvoir disposer le nœud borroméen sur des surfaces de toutes les manières possibles. Et j'ai fait ça un été. Un été, j'ai dessiné le nœud borroméen sur la surface du tore, j'ai dessiné deux ronds sur la surface du tore et un qui flotte à l'extérieur. Un rond sur la surface du tore et deux qui flottent à l'extérieur, puis un qui est un trou du triple tore et deux dans un double tore, et puis deux qui sont sur la surface, etc. Je les ai mis tous les trois aussi autour, dans le volume. J'ai fait ça pendant un été, et j'ai trouvé cette chose extraordinaire dans l'espace, c'est que le borroméen, il épouse l'espace, ou l'espace épouse le borroméen, je ne sais pas. Papa, maman, je ne sais pas. Mais le problème est que toujours est-il que ça marche très bien, c'est que le nœud il passe très bien dans l'espace avec les surfaces, ça se dispose bien. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Ben, j'ai trouvé ce cas-là. Et donc je me suis dit, mais ça c'est ce que Lacan était en train de bricoler dans le séminaire des dernières années, voyez. Et donc c'est quand même extraordinaire. Alors vous pouvez me dire, là je pense qu'il y a un facteur de suggestion. Je ne sais pas, est-ce que c'est la lecture qui m'a mis sur cette piste, mais toujours est-il que, en cherchant quelque chose qui est tout à fait différent, hein, de ce que, au lieu de chercher à rendre compte de ce que Lacan avait fait, en me donnant un programme, un style de travaux, hein, un style de question que j'ai. Il faut inventer des questions, voilà. Pour lire, pour faire la topologie et lire Freud et lire Lacan, il faut vous inventer des questions et faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que vous pouvez imaginer, chercher, croire, chercher. Et vous allez trouver des choses qui, ensuite, c'est comme des fleurs, vous voyez, c'est comme les trucs qu'on jette dans l'eau, là, chez les Japonais, vous savez, qui sont des fleurs qui s'ouvrent. Vous avez quelque chose comme ça qui s'ouvre, et là-dedans, vous allez trouver des trucs que vous n'auriez jamais imaginé sans ça. Alors j'arrête, et je vous envoie ces dessins. J'essaierai quand même de les expliquer encore. Elle est où la feuille avec les adresses. Merci.
Alors, à la semaine prochaine.